Vous écoutez la radio du bout de la nuit, enregistrée en direct et en public dans la cour de l'École des Beaux-Arts de Toulouse, dans le cadre de ce festival le printemps de septembre à Toulouse. Nous sommes ensemble de 22h à 1h du matin. Nous allons accueillir des artistes, des musiciens, quelques critiques et des interventions, avec particulièrement ce soir un jeu qui vous sera proposé en public par le collectif de l'Encyclopédie de la Parole. Je suis Béatrice Méline.
Moi, je m'appelle Jean-Yves Joannet. Bonsoir, Béatrice.
Bonsoir, Jean-Yves.
On se sent bien ici. C'est notre troisième jour à l'antenne. Notre stage d'animateur radio se passe plutôt pas trop mal. La première soirée était lamentable. Hier, c'était presque parfait. Alors aujourd'hui, il va falloir trouver je sais pas quoi pour que ça soit plus que parfait. Et on accueille ce soir Amy O'Neill.
Bonsoir, Amy.
Bonsoir.
Vous êtes accompagné par Christophe Chérix.
Bonsoir.
Bonsoir, Christophe. Alors, nous vous recevons ce soir dans le cadre d'une double actualité d'Amy O'Neill, puisque vous êtes à la fois exposée dans le centre d'art de Saint-Gaudens, où vous présentez un ensemble de chars, on peut dire ça comme ça, également à Toulouse même, dans l'enceinte de la DRAC Midi-Pyrénées, où vous présentez une autre pièce qui est un achat en fait du Fonds National d'Art Contemporain, du FNAC, qui s'appelle The Old Woman's Shoes.
Alors Amy, on peut même penser qu'il y a d'autres œuvres de vous dans la ville, parce que peut-être avez-vous vu ce carnaval de Toulouse aujourd'hui, ces grands masques, ces grosses têtes comme on les appelle, et ces chars un peu partout. Vous les avez vus dans la ville ?
Un petit peu.
Est-ce que ça a un lien à l'évidence directe avec votre œuvre ou pas du tout ?
Oui, ça existe un lien parce que c'est notre vie maintenant et nous voyons mon œuvre maintenant, mais aussi pas du tout. J'aime beaucoup la duplicité.
Pourquoi pas du tout?
Parce que mon intérêt, c'est pas où nous nous exposer dans le moment, mais qu'est-ce que nous poser avec notre histoire. Et notre histoire comme une civilisation. Yeah, human.
D'accord.
Et c'est prendre plus de temps de comprendre ça, comme qu'est-ce que nous voyons dans un instant.
Christophe Chérix, vous allez faire un petit peu la traduction peut-être de la prochaine question. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler, Amy, de votre rapport à l'histoire dans la pièce qui est particulièrement exposé dans la cour de la DRAC Midi-Pyrénées. Est-ce que vous pouvez peut-être nous la décrire et nous expliquer la situation particulière qu'elle a dans l'histoire ou peut-être dans les contes, on pourrait même en parler comme ça.
Could you describe, you know, how this piece, what this piece means and what's the context of this work?
I mean, I think it can exist in many different contexts and with many different ideas.
Il y a plusieurs contextes qui peuvent avoir un sens et plusieurs idées qui peuvent la résumer.
But I like the idea of somehow talking about both a mental and a physical space at the same time and to collapse those ideas.
J'aime l'idée de parler à la fois d'un temps physique et d'un temps mental et de rapporter l'un sur l'autre.
Quel est ce temps physique, peut-être, de cette pièce? Quelle est sa prise à la réalité?
What's the relation with reality with that work?
Our feet.
Nos pieds.
Les pieds sur terre, alors.
But maybe you want to describe where this piece comes from.
Of course, the origins of this piece are very personal.
Les origines l'origine de cette œuvre est très personnelle.
Parce que où je suis né.
Parce qu'elle est liée au lieu où je suis né.
Et where my introduction to culture first started was in Pennsylvania.
Et la première fois que j'ai rencontré quelque chose qui s'approche de ce qu'on appelle la culture est en Pennsylvanie.
And I saw this shoe house sculpture maintenant.
Et j'ai vu cette chaussure de vieille femme.
In a park for kids.
Dans un parc d'amusement pour enfants.
Where you would illustrate nursery rhymes with three-dimensional objects.
Où on illustre des livres de contes avec des objets tridimensionnels.
And I was kind of bored by it, but at the same time, I was fascinated by its absurdity.
C'est une chose qui m'ennuyait beaucoup, mais en même temps qui me fascinait de par son absurdité.
Ce conte, cette histoire pour enfants, intitulée The Old Woman Chew, de quoi on pourrait le rapprocher dans la culture des contes européens? Est-ce que, ou alors résumer l'intrigue de cette comptine pour enfants?
What's the fable about? What's the story about?
Well, actually, the story originates, or the fable is a political fable that starts in England.
C'est une fable politique qui débute en Angleterre.
And it's a reaction to the Queen's import on taxes, and it's about an old woman that has too many children that she doesn't know what to do.
C'est une conte qui traite de l'abus par la reine des taxes et qui parle d'une femme qui a trop d'enfants.
She doesn't know what to do, so she gives him some broth or some bouillon.
Alors elle l'offre, elle ne sait pas comment traiter, comment nourrir ses enfants, donc elle leur donne du bouillon.
And she, without any bread, which is
sans
kind
pain.
Of important, and then she whips them all soundly.
Alors elle les bat régulièrement.
And sends them to bed.
Et les envoie au lit.
And I love this poem because this is something I learned when I was first starting to read, and it didn't make any sense, and at the same time, it was really violent.
Amy aimait l'idée qu'elle a vraiment entendu cette histoire très tôt dans son enfance, qui pour elle ne faisait strictement aucun sens, mais il y avait cette violence qui la fascinait.
And also, it's a portrait of our humanity, and at the same time, you know, my context of understanding it was not where it originated from, in England. You know, I learned it in America. So I love this idea of misunderstandings that happens all the time.
Cette idée de malentendu d'une histoire anglaise qui tout à coup est rapportée aux États-Unis et qui change de sens et qui tout à coup, en tant qu'enfant, elle la découvre comme quelque chose qu'elle n'a sans doute jamais été.
So what I did, finally, really fast, is I went back to this place that I visited as a child. The place is now closed.
Alors ce qu'elle a fait rapidement, c'est qu'elle est retournée dans cet endroit qu'elle a visité comme enfant, un endroit qui est aujourd'hui fermé.
And the shoe was still there, but now it was a little bit rotten and being invaded by the forest.
La chaussure était encore là, mais le parc est enfermé depuis 20 ans. Elle était un petit peu pourrie, était très très abandonnée et la végétation avait complètement conquis le terrain.
And after that, when I was asked to do a show in Toulouse, I loved the idea of recreating a parallel universe, something that exists today in Pennsylvania, but then can exist as art in Europe.
Alors elle aimait l'idée de ce déplacement de champ, qu'on lui a demandé de faire une exposition à Toulouse, de simplement rapporter cet objet trouvé en Pennsylvanie et de le projeter ici à Toulouse.
And I love the idea of trying to broach misunderstandings with trying to create understandings.
L'idée de partir dans malentendu fondamental et d'essayer d'arriver à quelque chose qui serait de l'ordre de la compréhension.
Donc du point de vue de l'objet, en termes de sculpture, il s'est agi de réaliser, de reconstruire de manière propre, nette, professionnelle, un objet délabré, une architecture défaite.
So it was to reconstitute in a clean way something which was totally destroyed and rotten.
Yeah, and to make a kind of fake relic and a souvenir.
Une sorte de faire une fausse relique ou d'un souvenir.
And also a testament to our stance as humans. You know, the only thing that gives me hope is art. And I think it's really cool to be able to make art in all of like this mess of a quagmire that we call humanity.
La vie dans notre humanité est un peu troublée. La seule chose qui donne de l'espoir, c'est l'art. Et quelque part, cette pièce est un testament à cette idée-là.
On parle de testament, de reliques. Ça m'amène à penser à ces chars qu'on évoquait donc au début de l'entretien et qui étaient là aujourd'hui, donc présents dans la ville de Toulouse d'une manière totalement détachée, enfin sans rapport avec votre travail évidemment. Pour revenir donc sur ces chars que vous présentez à Saint-Gaudens, ils sont quand même différents, ils sont bien différents de ceux qu'on a pu voir cet après-midi en ville en l'occurrence. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, puisqu'il semble que...
Could you talk a bit about your float that you are showing in Saint-Gaudens now, and how different they are from the one we saw in the streets today?
Yeah, because they're basically a parade float cemetery.
C'est plutôt un cimetière de chars de parade qu'elle a essayé de reconstruire.
And what they represent is recreations from the 60s and the 70s.
Ce sont des recréations qui sont issues des années 60, des années 70.
Which for me, in terms of America, were sort of the silver and the golden ages of parade floats.
C'était un peu le moment d'argent et d'or des chars, le grand moment des chars de parade.
And there was a sort of amazing idealism that went behind these objects that were a bit propagandistic.
Il y a beaucoup de propagande de cette sorte de d'idéalisme fascinant de ces années-là qui informait ces œuvres.
And when you look at them today, you realize that time can change everything in terms of our understanding of a moment. And so what we're showing in Saint-Gaudens is it isn't an ancient chapel.
Alors ce qu'on montre à Saint-Gaudens, qui se trouve que c'est une ancienne chapelle,
is manifestations of an America that was still is, but also was quite religious and moralistic.
C'est le rappel d'une Amérique très religieuse, très moraliste.
Not that it's changed that
Pas
much.
Pas que ça ait changé tant que ça, mais c'est sans doute plus présent encore à ce moment-là.
So what I recreated was a skeleton of Noah's Ark.
Alors elle a créé l'ossature de l'arche de Noé, donc pas le char lui-même, mais vraiment l'ossature qui devrait plus tard, là, j'ajoute un petit peu, être couvert de fleurs.
And I love this idea because when it was presented as a parade float, it was completely optimistic and romantic.
Lorsque c'était présenté initialement, c'était quelque chose de très romantique, de très optimiste.
But when you look at it without its decoration,
mais quand on le voit sans sa décoration,
it's pretty desperate.
C'est plutôt quelque chose de très désespéré.
So we show that and also a piece called the granddaddy of them all.
Le second char s'appelle le grand-père de tous.
Which basically illustrates on a band of film, which is not so present today in today's way of articulating culture. It's more digital today. Different monuments that are large in size and idea. For example, the Hindenburg, La France, which is a very special boat.
Le char illustre quelques grands moments de l'histoire de l'humanité du XXe siècle, tout autour de son pourtour. Ça peut être, par exemple, le paquebot France ou d'autres.
The Hindenburg.
Le Hindenburg.
Hindenburg.
Comment
est-ce qu'on appelle
ça?
Jane Manson.
Le gonflable. Jane Manson.
Yeah. Flock of Seagulls. Devil's Canyon. So that's how it's different in this chapel. It's not so friendly.
Il y a quelque chose de moins amical que les chars qu'on a pu voir cet après-midi dans les chars qu'elle a recréés dans cette chapelle.
I like to think that it's much more conscious of itself.
À ce propos, Amy, c'est une dernière question. On parle du cimetière. Il s'agit donc de cadavres, de chars.
Speaking of cemetery, it's in bodies.
Déconnectés de la fête ou de la propagande.
Disconnected from the party or the propaganda.
Qu'est-ce qui continue à vibrer en eux?
What still vibrates in them? When they're not linked to propaganda or the party or the...
Because, I think they were touched and they're important in humans' history of learning, knowledge, culture.
C'est lié à notre. Ce sont des reliques de la façon dont nous avons approché la culture et.
C'est un homme de notre définition. A ghost.
Un fantôme.
A shadow.
Shadow. Non. Okay. Mille merci.
Merci
à vous deux.
Merci,
Amy.
Thanks.
Merci, Christophe Chérix. Alors, nous allons devoir abandonner nos micros. Nous allons devoir abandonner nos micros pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous allons écouter un pack de musique proposé par le Chevalier de Rinchy et son acolyte Régis Victor, mais surtout parce que juste après eux, oui, les amateurs sont présents, alors, mais juste après eux, nous allons proposer au public ici et aux auditeurs qui nous entendent un jeu. Alors, c'est l'encyclopédie de la parole qui va arriver dans 5 minutes, donc. Et pour les introduire un petit peu, pour vous expliquer le contexte, l'encyclopédie de la parole, c'est un projet collectif donc, qui travaille sur la base de documents de parole enregistrés. Donc, elle classe, elle organise ses documents dans des rapports formels et elle produit des pièces sonores, des ateliers et des conférences. ou des performances d'ailleurs comme Parlement qui vient de se jouer ce soir là. Donc peut-être que certains ont pu aller voir ça. Et également, donc, cette encyclopédie de la parole produit un jeu radiophonique. Et donc c'est ce jeu dont le titre est qui va avoir lieu juste après donc un pack de musique du Chevalier de Rinchy.
Oui, oui, Béatrice. Je ne veux pas vous couper la parole, mais juste préciser pour l'auditoire qui n'était pas présent, qui n'était pas devant sa radio ou derrière sa radio hier soir, que ce qu'on appelle pack, paquet de chansons, dans le cas du Chevalier de Rinchy et de son acolyte Régis Victor, c'est du fait du format extrêmement bref, un peu modeste et très peu... Bon, vous allez voir vous-même.
Néanmoins très ambitieux.
Très ambitieux. Ces formats étant très brefs, il faut en pacter plusieurs petits morceaux pour faire quelque chose d'un peu consistant, d'où des packs de chansonnettes que nous offre le Chevalier de Rinchy.
À vous le Chevalier.
C'est bon ? Régis, c'est OK ? On y va. Attention, on se concentre. La première chanson qui s'appelle « Je ne pense qu'à ça ». C'est bon ?
Ouais.
3, 4.
Je ne pense qu'à ça.
Très bien, merci Régis. OK. Ah, il y a plein. C'est bon ? Donc, on entend tout, c'est bon ? On y va ?
Ouais.
3, 4.
Il faisait vraiment doux pour la saison.
Merci. Ok, on y va. Régis, vas-y. On y va ? La prochaine s'appelle « Il y a un nœud dans ses cheveux ». Régis ? 3, 4.
Il y a un nœud dans ses cheveux.
Merci. C'est bon ? C'est bon ?
3, 4. Sexy et solitaire.
Merci.
Bravo.
Et on passe. Attention, c'est un morceau que... Comment on appelle ça ? A cappella, c'est ça ? Sans instrument.
À la voix.
Ok.
À la tête. Voilà.
3, 4.
Pam 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 pam.
Merci. Allez.
Ah oui.
Régis. C'est bon ?
Ok.
3, 4.
Ah non, je n'y avais pas pensé.
Merci.
Voilà.
Ok. Alors, on se concentre.
Ouais, vas-y.
Bienvenue à tous. Bienvenue au jeu. Le jeu de l'encyclopédie de la parole. Alors, je ne vais pas refaire de présentation, elle a été faite précédemment. Ce soir, Nous allons jouer à identifier quelques extraits inouïs de nos participants. Ce soir, les extraits sonores ont été choisis par Monsieur Sébastien Lespinasse. Je diffuserai un extrait et ensuite je céderai la place à la perspicacité de nos experts qui s'essaieront à l'identifier. À ma gauche, Constantin Alexandrakis, Emmanuel Lafont, Joris Lacoste. À ma droite, Pierre-Yves Massé et Grégory Castera. Nous sommes tous des experts de la parole. Voici le premier extrait sur lequel nous allons nous arrêter ce soir. Il dure environ 50 secondes. Tourner successivement vers chacun des membres de l'encyclopédie pour un premier tour de table. Constantin ?
Alors, il est assez difficile cet extrait. Je ne sais pas, pour vraiment première écoute, première impression, j'avais pensé à... Alors, je me suis demandé si c'était un effet ou pas, si c'était quelque chose qui était fait par ordinateur ou par... uniquement une espèce de, on dirait comme une voix inversée, quelque chose comme ça. Et après ça m'a fait penser à quelqu'un qui parle en dormant, mais c'est peut-être pas le fait que ça soit répété comme ça, c'est peut-être pas, j'hésite quoi encore pour l'instant.
Bien,
mais une première piste en tout cas ce serait celle du somnambule.
Bien. Emmanuel Lafont.
Je dirais que c'est un enregistrement personnel, quelqu'un qui s'enregistre en train de faire quelque chose. Il y a le son m'évoque un mouvement physique, comme par exemple quelqu'un qui parlerait en travaillant. Sauf que là, ma foi, il parle, mais pas avec des mots qu'on reconnaît. Voilà, quelqu'un qui s'enregistrerait en train de repasser peut-être.
Donc, si je résume, un son qui doublerait une activité.
Oui.
Joris Lacoste.
J'ai pas vraiment d'indice sur l'activité pour l'instant. Par contre, j'ai cru comprendre l'énoncé qui est répété. Il m'a semblé entendre, avec toutes les réserves, hein, il faut le réécouter, il m'a semblé entendre « je vous mens » en boucle. « Je vous mens, je vous mens, je vous mens ». Ce qui pourrait être une première piste. À vérifier.
Donc vous êtes le premier à attribuer
je propose,
du sens. Alex.
Notre possibilité, ça serait plutôt « aux mamans », ce qui dirige forcément les investigations dans une toute autre direction. Mais j'hésite entre ces deux directions, « je vous mens » ou « aux mamans ».
Bien. Pierre-Yves Massé.
Moi j'ai entendu « mais c'est peut-être parce que c'est le nom du jeu. Donc. Effectivement, c'est très curieux dans cet aspect extrêmement répétitif, c'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment d'une espèce de ritournelle ou de boucle qui évoquerait comme ça une espèce d'une forme d'autisme. Alors je ne sais pas, c'est très flou encore, mais tout de suite, j'ai mis du temps à identifier la voix. Enfin, je me demandais de quoi il s'agissait, un petit peu comme disait Constantin tout à l'heure. Et je pensais vraiment à une espèce de cri animal, quelque chose de très frotté. J'entendais vraiment des frottements, presque comme si c'était un son frotté qui n'était même pas une voix humaine. Quelque chose qui vient vraiment du fond de la gorge, quelque chose comme ça. Donc tout ça ne dit pas grand-chose finalement. Enfin, là, j'en suis vraiment à un stade de description.
Mais vous vous classez du côté d'une voix qui ne serait pas, enfin d'une interprétation d'une voix qui ne serait pas une voix humaine.
C'était ma première interprétation. Après, je pense que c'est une voix humaine, mais sur la question de l'énoncé, la question de la situation, là, je suis encore très très dans le vague.
Bien. Grégory Castera, votre opinion.
Bon, moi, je suis plus ou moins persuadé que ce son, c'est un son étouffé et ça me fait tout de suite, ça m'a tout de suite fait penser au son qu'on a lorsqu'on met un micro dans sa bouche. Bon, par contre, j'écarterai tout de suite la piste d'une performance ou d'une situation de performance. Donc je me suis demandé où est-ce qu'on pouvait avoir un micro dans la bouche et ça arrive par contre dans des situations médicales et vous avez certainement déjà eu ces images de voir une caméra comme ça qu'on met à l'intérieur de la bouche où on voit la glotte qui bouge et quand une personne est en train de parler. Donc j'imagine donc une situation médicale en fait que je ne connais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Voilà, et après au niveau du contenu de ce qui est dit, je pense que la personne essaie d'expliquer quelque chose parce que l'intonation et les espacements dans la voix, dans la parole me laissent supposer que la personne explique quelque chose avec un micro dans la bouche. Donc j'opterais pour une situation médicale où la personne explique quelque chose.
Donc vous attribuez du sens à l'énoncé comme Joris Lacoste,
indubitablement.
Mais vous vous rangez du côté de la situation disons pathologique à la manière de Pierre-Yves Massé.
Exactement.
On va réécouter l'extrait. Alors, je vais recommencer par Monsieur Constantin Alexandrakis. Est-ce que vous avez pu préciser vos hypothèses, caractériser un peu plus précisément l'extrait que nous venons d'entendre ?
Je renonce un peu à la piste du somnambule, parce que j'entends pas bien parce que j'ai pas de casque, mais j'ai l'impression qu'on entend plutôt une forêt derrière ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est une hallucination, mais j'ai l'impression d'entendre un extérieur, non ? Pas du tout. Bon. Mais sinon, je trouve ça assez difficile, à part quelqu'un qui essaye d'imiter une vache dans la forêt. j'ai pas beaucoup d'autres idées, je dois l'avouer.
D'accord, donc quelques hypothèses sur le cadre quand même.
Pour l'instant, je serais plutôt dans un truc d'une farce, mais je sais pas trop.
Bien. Emmanuel Lafont.
Décidément, j'observe que le rythme n'est pas régulier, comme si c'était de la musique écrite, par exemple, ou quelque chose de prévu. C'est toujours le même dessin de son, mais il y a des petites irrégularités qui font que le son est quand même très rentré. J'ai l'impression que la personne s'oblige à fermer la bouche. Est-ce que l'activité à laquelle il se consacre se fait mieux la bouche fermée, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'il s'impose ou qu'on lui impose? Je me pose la question un petit peu aussi de s'il est en train de commenter l'activité de quelqu'un d'autre, auquel cas il y aurait une sorte d'assentiment dans son comme c'est bien, vas-y, continue, une sorte d'encouragement ou de commentaire à l'action qui se déroule devant lui. Mais c'est tellement, C'est tellement un son rentré qu'on a l'impression qu'il est seul avec lui-même et son micro et son action. Je
Donc,
reste là-dessus.
Vous avez quand même deux hypothèses. Une partition, peut-être.
Ah non,
non, pas une
justement,
partition.
Pas une partition, parce que c'est monomaniaque, mais c'est pas du tout, c'est pas régulier, ça se veut régulier, mais c'est pas régulier.
Et vous parliez de musique écrite tout à l'heure.
Eh bien justement, je pense que ce n'est pas de la musique écrite.
Bien.
Justement, parce que c'est pas, je pense que ce n'est pas de la musique écrite.
Vous pensez que ce n'est pas de la musique écrite. Oui. Bien. Joris Lacoste.
Non, j'ai aussi noté, je pense, comme Emmanuel, la bouche fermée. On a l'impression que c'est quelqu'un qui parle en effet avec la bouche fermée. Et j'ai également remarqué l'intonation montante à la suite de chaque segment de l'extrait. Ce qui me fait penser à une situation d'apprentissage où on essaierait d'apprendre ou de faire apprendre quelque chose à quelqu'un. Et donc, je me demandais dans quelle situation on pourrait apprendre ou faire apprendre quelque chose à quelqu'un en ayant la bouche fermée. Et je me suis dit que c'était peut-être une situation où on verrait peut-être Claude Pierrard, par exemple, vous voyez, qui apprendrait à quelqu'un comment parle sa marionnette tataillée. Donc, une situation de ventriloquie ou d'apprentissage de ventriloquie. Quelqu'un qui apprendrait pour lui-même ou qui ferait apprendre à quelqu'un comment parler en fermant la bouche. Donc, ce qui expliquerait cette répétition ou cette insistance.
Donc, là où Emmanuel Lafont voyait une situation de commentaire ou peut-être d'assentiment, vous voyez une situation d'apprentissage, quelque chose en train de se codifier. Ouais,
c'est vraiment l'intonation montante à la fin des segments qui me laisse penser ça, comme quand on attend une approbation. Donc, c'est bien ça, à toi.
D'accord, très bien. Et vous pouvez préciser le contexte un peu plus
Je maintiendrai l'énoncé, je pense que c'est vraiment je vous mens. Donc ça serait Claude Pierrard qui apprend à quelqu'un à dire je vous mens en ventriloquie.
D'accord, donc vous écartez l'hypothèse de la berceuse que vous sembliez avancer tout à l'heure.
Non, je pense que c'est vraiment plus je vous mens que...
Je vous mens, bien. Pierre-Yves Massé.
Moi, il y a un truc qui me chiffonne beaucoup, c'est ça rejoint ce que disait Grégory tout à l'heure. C'est l'enregistrement de la voix. C'est une voix qui est absolument pas du tout... Enfin, vraiment pas naturelle. Et qui sonne vraiment comme une voix déformée. J'ai noté que ça ressemblait presque à un vieux Moncel. Donc je parlais de Créanimate tout à l'heure, j'avais vraiment la sensation de palpable de la corde vocale. Donc je, au niveau de l'enregistrement, je vois pas comment c'est possible avec un micro qui serait à l'extérieur de la bouche de quelqu'un. Donc déjà ça me chiffonne. Alors je serais assez d'accord avec ce qu'a pu dire Joris, mais je comprends pas pourquoi est-ce que la voix serait enregistrée de cette façon là il y a quelque chose qui au niveau du timbre me met encore très énigmatique.
Okay. Grégory Castera.
Il y a effectivement quelque chose de l'ordre de la technique et où on met en avant des vibrations de membrane. Et je ne sais pas si l'hypothèse médicale est la plus pertinente. Par contre, ce dont parlait Joris, je crois Emmanuel, non, et Constantin aussi, on a parlé d'imitation ou de. Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui imite une scie qui scie du bois. Je pense que ce serait ça en fait. Parce qu'on a un son, un frottement et un petit souffle derrière. Et je pense que c'est une manière d'imiter une scie.
Donc une situation d'apprentissage totalement absurde.
Non, quelqu'un qui va imiter. Comment est-ce que je vais imiter? Je sais pas. Alors je peux imiter la scie. Comme ça, par exemple.
Alors, un bruiteur?
Ça pourrait se combiner avec l'hypothèse d'Emmanuel Lafont sur le fer à repasser. Ça peut être une manière d'imiter une scie ou un fer à repasser.
Bien, donc une manière d'imiter l'objet que l'on va manipuler dans une activité donnée éventuellement. Alors vu que nous sommes tous des experts de la parole, peut-être que certains d'entre vous ont des précisions à nous apporter. Mademoiselle.
Merci. Je ne suis pas encyclopédiste, mais une petite hypothèse, je pense à un psychanalyste enregistré à l'envers, qui pourrait rejoindre l'aspect clinique, pathologique, la scie, et puis plein d'autres aspects que vous avez évoqués les uns et les autres. Donc,
Donc vous pensez qu'un psychanalyste enregistré à l'endroit présente une grande régularité comme ça de,
dans les mouvements de sa parole ? Là, il y a des petites irrégularités, mais qui sont soulignées par le fait qu'il ait été enregistré à l'envers. C'est-à-dire que quand on sort de la séance, c'est à peu près peut-être ce qu'on entend.
Bien.
Je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est sûr, c'est un psychanalyste enregistré à l'envers, mais peut-être qu'il est, il est sourd-muet aussi, et ce qui est intéressant pour un psychanalyste. Et peut-être il est funambule aussi, c'est pas du tout. Et somnambule. Et qu'est-ce qu'il peut être d'autre, ventriloque. Voilà.
Donc vous conjuguez toutes les hypothèses. On va réécouter l'extrait une dernière fois. Alors j'aimerais que chacun des intervenants caractérise assez précisément ce que l'on vient d'entendre sur la base de l'ensemble des hypothèses qu'ils ont pu formuler en articulant un ensemble un peu cohérent. Monsieur Constantin Alexandrakis.
Ouais. Alors moi ce ne sera pas sur la base des hypothèses que j'ai échafaudées.
Bien.
Du tout,
mais on vous écoute.
Je pense que c'est franchement un instrument de musique avec la bouche, une expérience musicale. Ça me fait penser au tuyau, quand on tourne le tuyau qui siffle là, voilà, je crois avoir vraiment entendu un soufflement dans comme une espèce de flûte, une flûte qui parlerait, quoi, quelque chose comme ça. Voilà. C'est mon hypothèse.
D'accord, donc un instrument, le bruit d'un instrument.
Et enfin, une expérience qui vise à faire de la musique avec les cordes vocales et un tuyau. Je pense qu'il y a un tuyau.
Enfin,
je pense qu'il y a un objet, quoi. Voilà.
Emmanuel Lafont, votre hypothèse.
Je poursuis la thèse de quelqu'un qui est en train de travailler. Alors j'ai entendu des petits cliquetis, des bruits au casque que je n'avais pas entendu. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans son atelier, qui travaille, qui a l'habitude de travailler seul, qui travaille en solitaire et qui accompagne son activité de certains sons. Et voilà, et le rythme de ce qui est toujours le même rythme, l'activité de cette personne. Ceci dit, Françoise, vous avez dit bruitiste et c'est pas inintéressant, mais je maintiens.
Vous maintenez. Bien. Joris Lacoste.
Là, j'ai une nouvelle hypothèse qui m'est venue à la troisième écoute, qui était en fait parce que ce matin j'ai pris un bain. Et j'ai fait, comme ça arrive, des expériences, vous savez, quand on a les oreilles sous l'eau et qu'on parle dans sa baignoire. Et j'ai l'impression que c'est très proche, le type de son. Mais après, je ne sais pas exactement comment on pourrait enregistrer. Je me suis posé la question ce matin, d'ailleurs, comment on pourrait essayer d'enregistrer ce son qu'on est a priori le seul à pouvoir entendre.
Mais, tu crois qu'il
existe, mais je me dis que c'est peut-être une expérience de quelqu'un qui parle sous l'eau et qui est enregistré avec un micro amphibie. Ce qui n'explique pas exactement la répétition. Sinon que peut-être c'est quelqu'un qui a bloqué sur un énoncé et qui essaye de se le faire entendre ou qui cherche une note. On a parfois l'impression qu'il cherche une note particulière ou un son particulier. Mais je suis assez pour cette idée d'une chose enregistrée sous l'eau.
Donc une situation remarquablement complexe.
Pas vraiment, parce que ce matin dans ma baignoire, c'était très simple.
C'était très simple. Pierre-Yves Massé.
Je dirais un sculpteur sourd-muet en train de travailler le bois. Voilà.
C'est définitif.
Pierre. Oui.
Grégory Castera.
Oui, je persiste sur ma proposition de tout à l'heure. On est dans un atelier, en fait, une personne en train d'expliquer à quelqu'un d'autre comment bien scier. Pour expliquer comment bien scier, il explique le son que doit faire la scie, parce que, comme assez souvent, on a des référents sonores lorsqu'on fait du bricolage. Et donc, il explique le son que doit faire la scie.
Bien, donc vous êtes tous d'accord sur le fait que c'est une voix ou que c'est un humain, en tout cas, qui produit ce son, désormais. Et nombre d'entre vous diraient que c'est un son qui accompagne, qui double une activité, voire qui imite un objet qui est engagé dans cette activité. On va le réécouter une toute dernière fois et on va l'identifier. Alors c'est un document ethnographique dont je ne possède pas la date. C'est l'enregistrement d'une berceuse d'un peuple, en tout cas produite par un peuple qui vit sur une île à proximité des Maldives dans l'océan Pacifique. Le titre de cette berceuse est Tokoloma Jana. Voilà, c'est un document qui n'a pas de, c'est un document qui n'a pas de date et c'est une berceuse pour les enfants, ce qui est une hypothèse qui avait été évitée ou rejetée par Joris Lacoste. Merci. Alors, nous allons réitérer l'expérience avec les mêmes participants sur un second extrait.
J'ai deux couverts sur la table et je suis descendu à la cave chargé du vin. C'est passionnant. La cave est assez bien fournie. Un de mes camarades de la faculté de droit, qui est aussi celui de Michel, gère un domaine à Saint-Émilion. Nous lui rendons visite tous les deux. Et il nous offre une caisse de 12 bouteilles de sa production, jamais davantage. Nous sillonnons les châteaux pour faire nos achats. Je choisis sur un rayon une bouteille d'un premier cru de Saint-Émilion et je m'interroge sur l'année. Faut-il prendre du 82 ou du 92? Il me reste une lueur de bon sens suffisante pour réaliser le caractère grotesque de ma question pour une jeune fille rencontré par hasard après une lutte qui l'a brutalisé. Qu'est-ce qui est préférable? Du Saint-Émilion 1982 ou 1983? Pour éviter tout risque, je choisis une valeur sûre, une bouteille de 82, consacrée comme une bonne année. Je lui demande comment elle va pouvoir s'habiller. Elle n'a rien porté avec elle. Elle sera bien forcée de se changer.
Alors le document semble peut-être un tout petit peu plus immédiat à la compréhension. Constantin Alexandrakis, si vous pouviez nous caractériser le document dans ses grandes largeurs.
Dans ses grandes largeurs, je pense qu'il parle de vin. J'ai cru comprendre ça. Donc ça doit être quelqu'un qui fait visiter sa cave ou visiter une cave. Mm-hmm. J'arrive pas encore à savoir s'il est le propriétaire de la cave ou s'il c'est un client. Je sais pas exactement. J'ai pensé à Paul Prébois aussi.
Pourquoi Paul Prébois?
J'ai cru que c'était Paul Prébois au début. Donc
d'accord.
Je suis pas sûr, c'est pour l'accent.
Ok.
Mais
donc la situation, une situation de présentation d'un bien.
Ouais, je pense que c'est un enregistrement d'un documentaire. Par contre, enfin, c'est quelque chose qui est peut-être extrait d'ailleurs d'un documentaire filmé.
Quel genre de documentaire?
Peut-être pas un striptease ou quelque chose comme ça, pas un documentaire de télé classique, en tout cas ce sera un documentaire un peu où on enregistre un peu comme ça aussi.
Pris sur le vif.
Ouais, pris sur le vif. Ouais,
d'accord. Voilà. Okay. Emmanuel Lafont.
Il y a beaucoup d'évidence, tellement que je pense que j'aurais besoin de réécouter l'extrait. J'ai l'impression, à première vue, que c'est plutôt quelqu'un qui visite les caves. Un amateur de vin, il a l'air de s'y connaître. Il y a du monde, il raconte une histoire, il raconte son histoire à du monde. Je n'ai pas l'impression que ce soit des proches. Je pencherai aussi pour le documentaire. Et pour l'instant, je m'arrête là.
Joris Lacoste.
Moi, je pense pas que ce soit un documentaire. J'ai plutôt l'impression que c'est un enregistrement privé ou un enregistrement fait avec un petit enregistreur de poche. Ce qui me conduirait à penser que c'est plutôt une des personnes de l'assistance, enfin une personne à qui le locuteur s'adresse, qui enregistre. Et donc peut-être une situation de visite, en effet, de visite guidée, où le guide serait enregistré par une des personnes guidées.
D'accord, donc il y aurait des marques dans l'enregistrement qui vous mèneraient à une hypothèse donc d'un enregistrement amateur avec un enregistreur portatif. Ouais. D'accord.
Sur la nature même de la situation, j'ai besoin de réécouter l'extrait.
Bien, nous le réécouterons une seconde fois tout à l'heure. Pierre-Yves Massé.
Je suis tout à fait d'accord avec Joris sur la nature d'enregistrement. Donc ça paraît très clairement un enregistrement personnel. Une prise de son assez lointaine et quelque chose qui n'est pas... qui code pas vraiment avec les codes du documentaire télévisé. Moi, il y a une chose qui m'a... Donc, on a quand même affaire à quelqu'un qui raconte une histoire. Donc, c'est-à-dire que la situation, elle est quand même... Moi, je n'imaginais pas la personne dans la cave directement parce qu'il parle, enfin, il raconte, il parle donc de ses collègues de la fac de droit. On a l'impression qu'il raconte quelque chose au passé. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. J'avais l'impression que c'était assez écrit. On a l'impression qu'il disait son histoire comme si elle était pré-écrite. Alors, je ne sais pas s'il lit un texte ou quoi que ce soit. Mais ça me paraissait, pour une histoire racontée à l'oral, très, très assurée et puis finalement assez directif.
Donc il y aurait des marques de lecture très nettes.
J'ai ressenti ça, ouais.
Bien. Grégory Castera.
Je continue en fait je souscris à ce que disent Pierre-Yves et Joris. Je pense aussi que c'est un enregistrement personnel ou en tout cas un enregistrement qui n'est pas fait avec du matériel professionnel dans un contexte audiovisuel par exemple. Je pense aussi que c'est un récit. Donc que c'est voilà, quelqu'un qui raconte quelque chose, même s'il utilise le présent, quelque chose qu'il a fait. Et après, la question que je me pose et suit aussi ce que dit Pierre-Yves, mais c'est plus sur le fait qu'il dépasse un certain seuil au niveau de la manière de parler qui est assez loin d'un code d'échange, on va dire, entre amis. Il parle quand même assez longtemps d'une chose et les gens semblent l'écouter telle une audience. Mais ça m'étonnerait que ce soit un spectacle ou une situation comme ça de performance. Je penserais plutôt à un événement dans un dîner, par exemple, où quelqu'un prend la parole pour parler de quelque chose. Peut-être de parler du vin qu'ils sont en train de boire.
Donc en fait, une situation où il n'y aurait pas d'action de mise en scène, mais néanmoins où vous avez un petit trouble quant à la...
Un mariage, par exemple.
Ouais.
Voilà, un mariage, quelqu'un qui se lève et qui parle et qui commence à raconter quelque chose sur ces bouteilles qui sont là.
D'accord. On va réécouter une seconde et dernière fois l'extrait.
J'ai ajouté un deuxième couvert sur la table et je suis descendu à la cave chercher du vin. Impressionnant. La cave est assez bien fournie. Un de mes camarades de la faculté de droit, qui est aussi celui de Michel, gère un domaine à Saint-Émilion. Nous lui rendons visite tous les deux. Et il nous offre une caisse de 12 bouteilles de sa production. Jamais davantage. Nous sillonnons les châteaux pour faire nos achats. Je choisis sur un rayon une bouteille d'un premier cru de Saint-Émilion et je m'interroge sur le nez. Faut-il prendre du 82 ou du 82? Il me reste une lueur de bon sens suffisante pour réaliser le caractère grotesque de ma question pour une jeune fille rencontrée par hasard après une lutte qui l'a brutalisée. Qu'est-ce qui est préférable? Du Saint-Émilion 1982 ou 1983? Pour éviter tout risque, je choisis une valeur sûre, une bouteille de 82. Consacrée comme une bonne année. Je lui demande comment elle va pouvoir s'habiller. Elle n'a rien porté avec elle. Elle sera bien forcée de se changer.
Constantin Alexandrakis, est-ce que Vous restez sur vos bases.
Je rejoindrai assez ce que dit Grégory Castera sur le film de famille. Effectivement, ça me paraît être une piste possible. Après, je comprends pas tout ce qu'il dit. Donc, je sais pas exactement ce que fait cette jeune fille. Je n'ai pas bien compris l'histoire avec la jeune fille. Mm-hmm. Voilà. Et pour l'instant, j'avoue que je serais plutôt dans un film de famille sur YouTube, quelque chose comme ça.
D'accord, donc un récit
d'un oncle, par exemple, d'un oncle qui terrifie toute sa famille en lui racontant.
En lui racontant des histoires terribles.
Ces histoires de vin.
D'accord.
Voilà.
Emmanuel Lafont.
Je pense donc toujours que la personne qui parle s'adresse à. Enfin, donc il y a beaucoup de monde autour de lui, il s'adresse à ces gens-là. Du coup, ça me fait aussi pencher. Je penche aussi pour l'enregistrement privé à cause du brouillon un petit peu de la manière dont est enregistrée l'histoire de ce bonhomme. J'ai l'impression que c'est celui qui sait raconter les histoires. Il parle au présent. Nous sillonnons, nous visitons. Il raconte son histoire qui est passée au présent, il sait la mettre en scène, c'est le bout en train du groupe. Je pencherai pas pour la réunion de famille, mais plutôt la réunion d'anciens camarades de classe ou de ceux qui ont appris à être œnologues ensemble, parce que tout le monde rigole quand il dit évidemment j'ai choisi le 82 plutôt que le 84. Alors il a l'air de s'y connaître, mais les gens aussi autour de lui ont l'air de s'y connaître. Donc il y a une certaine complicité entre eux, une connivence, une intimité qui fait que l'histoire de la fille, je n'y comprends rien. J'émettrai l'hypothèse que cette fille est celle qui enregistre. Cette fille est folle de celui qui raconte, c'est celui qui raconte le mieux, c'est elle qui enregistre sauvagement et qui a gardé, enfin peut-être qui collectionne un petit peu les histoires que cet homme-là raconte à chaque fois qu'il porte un toast. Il y a un peu une ambiance de toast aussi dans la manière de mettre en scène la parole comme ça au présent.
Donc un enregistrement amoureux en somme.
Amoureux face à amoureux face à la collectivité. Il sait faire rire tout le monde. Oui.
Joris Lacoste.
Il y a beaucoup d'éléments qui me sont apparus à la deuxième écoute que j'avais pas du tout entendu à la première dans ce que dit ce monsieur. Donc il parle effectivement de il descend dans sa cave pour aller chercher des bouteilles de vin. Il se demande s'il doit prendre du Saint-Emilion, je crois, 82 ou 83. La chose que je n'avais pas entendue, c'est qu'il parle d'une jeune fille et d'une lutte. Cette jeune fille a subi une lutte et a été brutalisée. Ce qui me laisse à penser, vu que cet homme a des camarades ou des confrères à la faculté de droit, me laisse penser que cet homme serait avocat, serait un avocat qui aurait une cliente, ou en tout cas quelqu'un qui s'adresse à lui en tant qu'avocat, qui vient d'être brutalisé lors d'une situation quelconque, peut-être dans la rue ou je ne sais quoi, et donc s'adresse à lui en état de choc, et il a besoin d'alcool pour la réconforter, et donc il descend dans sa cave chercher de l'alcool, et c'est le caractère, disons, piquant de son anecdote, c'est qu'à ce moment-là, il se pose la question de est-ce que vaut mieux du Saint-Emilion 82 ou 83, ce qui, évidemment, vu la situation, fait rire ses interlocuteurs. Voilà mon hypothèse.
Pierre, une hypothèse très dense. Pierre Massé.
Je passe mon tour. Je suis assez impressionné par l'hypothèse de Joris Lacoste. Je ne saurais quoi ajouter.
Totalement empathie avec l'hypothèse. Grégory Castera.
Alors moi, j'ai une hypothèse qui mélange un peu la proposition d'Emmanuel Lafont et de Joris Lacoste. Parce que, en fait, je pense qu'il y a une situation, alors sinon une situation de cour, en tout cas une situation de connivence, mais aussi de maître-élève ou de, bon, en tout cas, de voilà un rapport maître-élève qui a évolué. Ça tout d'abord. Et bon, je pense aussi que c'est dans un milieu de juridique, en tout cas de gens qui effectivement cette histoire me semble assez. Voilà, on peut la deviner à travers ça. Donc je pense soit une situation de cours, soit une discussion avec des anciens élèves et un professeur qui sait bien parler, qui plaide aussi, qui a l'habitude de parler en public.
Ou
le fait de voilà.
Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Là, il y a une mademoiselle.
Je trouve super ce jeu.
Moi, je pense que c'est quelqu'un qui parle à des amis et qui sont autour de la table. Et c'est un environnement plutôt rural, domestique, assez sympathique. À un moment donné, on entend l'horloge qui fait glink. On voit qu'ils sont tous autour de la table. On entend des rires féminins et des rires masculins. C'est une histoire qui n'a pas de chute, parce qu'on sent que la chute va arriver. Et là, on travaille, c'est une énigme. C'est vrai qu'il y a deux indices qui sont donnés. C'est une blague autour de l'année 82 ou 83, on ne sait pas trop. Joris Lacoste parlait de... il s'est passé quelque chose, je pensais, moi, il a assisté à un mariage, et puis la mariée, finalement, le mari l'a quitté. Et du coup, pour la réconforter, il s'est dit, on va prendre un bon cru. Et puis peut-être que c'était qu'elle devait se marier avec un homme qui avait 82 ans, mais en fin de compte, il a préféré changer d'année. En tout cas, il y a une énigme. C'est pas dit, mais je pense que le locuteur s'adresse à une assemblée amicale dans un milieu rural où on entend ce meuble de cuisine qui dit l'heure, quoi.
Bien. Enfin,
c'est ce que j'ai entendu.
Bon, l'ensemble des... Quelqu'un d'autre a... Non. Alors, vous avez tous des... Si ?
Bonsoir, je suis très content d'entendre toutes vos remarques sur les extraits que j'ai sélectionnés. Alors cet extrait-là, c'est quelque chose de très particulier qui est d'actualité. Il s'agit d'un copain à moi que j'ai enregistré l'année dernière dans un contexte rural, effectivement avec une horloge, autour de 11h du soir. Nous avions marché toute l'après-midi une vingtaine de personnes. Nous étions harassés et fourbus, et nous n'avons pas résisté au plaisir de lire un vieux livre qui se trouvait dans la cuisine et qui est le célèbre roman érotique de Valéry Giscard d'Estaing, Le Passage, dont vous avez eu là un magnifique extrait qui montre la qualité profondément littéraire du grand académicien Valéry Giscard d'Estaing, qui vient de sortir un nouveau livre. Nous allons nous précipiter dessus, et donc je vous conseille de lire profondément ce livre à voix haute qui a des vertus rigolotes, même sans alcool.
Je voudrais citer une phrase de Sébastien Lespinas à propos de cet extrait. Une vingtaine de personnes sont autour de la table, on se passe le livre de main en main, chacun sent les mots de Giscard franchir sa bouche. Voilà, nous terminerons là-dessus. Merci.
Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'était l'Encyclopédie de la Parole, un collectif que nous allons retrouver la semaine prochaine. Donc, venez nous retrouver vendredi et samedi prochain si vous voulez à nouveau participer à un autre jeu proposé par ce collectif de l'Encyclopédie de la Parole. Alors, juste avant de retrouver Jean-Max Collard pour ses rêves critiques,
je suis là déjà.
Une intervention.
Je suis là.
Une intervention donc de Loreto Martinez Troncoso.
Bonsoir. Oui. Je ne sais pas depuis quand je suis dans cette chambre. Une chambre à soi. Une chambre en dehors de ce monde. C'était qui déjà qui disait ça? Plus précisément, qu'il voudrait se reposer dans son chambre en dehors de ce monde. C'était García Lorca, si je me souviens bien, qui pendant ses nuits d'insomnie se disait à voix haute, je veux dormir un instant. Un instant, mais que tout le monde sache que je ne suis pas mort. Oui, je ne bouge pas. Je ne bougerai pas. quelqu'un le fera à ma place. En même temps, pourquoi ne pas changer de position? Pourquoi ne pas au moins s'élever ou se relever? C'est qui disait que pour se mettre à agir, il faut avoir l'esprit tranquille? Qu'il faut qu'il n'y a plus la place pour le doute. Mais comment faire pour avoir l'esprit tranquille? Et qu'est-ce qui a réveillé ou qu'est-ce qui réveille cette mon intranquillité? Cette inquiétude? Si au moins je pouvais bouger et sortir de cet tâtonnement infini, avoir la certitude, ou une certitude au moins. Dire oui, dire non, dire oui et non, ou peut-être, mais dire quelque chose. Oui, a veces estoy mismo con voluntad de matar a alguien. Des fois, j'ai envie de tuer quelqu'un. Mais d'où est-ce ailleurs, on vous dit. En même temps, qui n'a pas eu un jour envie de... En tout cas, de haïr. Oui, aujourd'hui, je vais haïr. Non. Aimer. Je vais aimer. Ou en tout cas, ne plus rester les bras croisés. En même temps, peut-être que bon, je ne sais pas où est-ce que je veux ou je peux arriver avec tout ça. Et peut-être que vous avez raison. Peut-être que ceci n'est qu'un rêve d'un insomniaque. Oui. Attentivement, un insomniaque.
Jean-Max Collard de retour parmi nous pour la troisième soirée et de nouveaux rêves critiques.
Je rêve et je peux plus m'arrêter.
ce soir trois rêves sur Cyprien Gaillard, un artiste qui expose dans le cadre du printemps de septembre et qui montre une vidéo aux ateliers du Théâtre Garonne. Trois rêves sur Cyprien Gaillard. Nuit du 10 au 11 avril, Paris. Je rêve une émeute sur les toits de Paris. On se retrouve là, un petit groupe, et simultanément la scène se déroule dans un parking à étages où un jeune artiste, que j'identifierai au matin comme étant Cyprien Gaillard, jette en courant une quantité d'allumettes au sol. Ses gestes prennent l'allure d'une chorégraphie, mais par moments, il enflamme une allumette qui fait brûler et exploser plusieurs voitures à l'autre bout de la ville. Cette scène se répète plusieurs fois, des voitures explosent dans la ville. Les CRS ont bloqué le quartier, commencent à monter sur les toits et aussitôt l'un d'eux m'arrête d'une main ferme. D'autres personnes nous rejoignent et peut-être un garçon aux cheveux longs et noirs qui d'emblée explique aux CRS la dimension esthétique de ce vandalisme artiste et, entre guillemets, notre désir d'émeute. Plus tard, je me retrouve en famille, à table, en train d'essayer de faire comprendre à mes parents, mais en vain, la dimension artistique de ces gestes. Nuit du 8 au 9 septembre, Londres. Je rêve une série de soirées intitulée « Backup » où une population de gens très riches, jet-set, s'amuse à envahir et modifier des résidences principales de gens plus ordinaires. Souvent, l'occupant des lieux est parti pour la soirée, invité depuis longue date au théâtre pour le tenir à l'écart de sa demeure. En son absence, les invités forcent sa maison, envahissent la pelouse, transforment la cabane de bricolage située au fond du jardin en un garage pour voitures de collection, construisent une piscine de luxe dans la nuit. À l'intérieur, ils jettent les vieux meubles et les remplacent par des canapés et du mobilier design. Des œuvres accrochées sur les murs, des écrans plasma, une cuisine américaine, et pendant tout ce temps, au milieu des allées et venues, DJ, danseurs, coupe de champagne et filles en bikini. Souvenir peut-être du film The Party, mais régression sociale du rêve, ici la fête et la restauration d'un monde riche et jet-set. Cette scène se rejoue dans plusieurs lieux à la fois, intérieur ou extérieur, dans un incessant changement de décor. Plus tard, je rêve une planche contact de l'artiste Cyprien Gaillard. C'est une série d'images qui documentent une action vandale effectuée dans un appartement du centre-ville. Des fumigènes ont été lancés dans le couloir. Au milieu du salon, un motard casqué fait un burn-out de moto, laissant d'épaisses traces de pneus brûlés sur le tapis. Une foule de rêveurs encagoulés traverse l'appartement, silhouettes furtives qui glissent dans le brouillard, dans la fumée blanche ou dans la fumée rouge répandue sur toutes les pièces. Sur la planche contact, je regarde comme des éclairs les images dispersées de ce vandalisme d'intérieur. Nuit du 3 au 4 juin, rêve de peur. Rêve de peur. Peur qu'après Édouard Levé, peur qu'après mon ami Nicolas, peur que l'artiste Cyprien Gaillard se suicide à son tour. Peur d'apprendre la nouvelle un samedi matin, comme toutes les autres fois. Je m'efforce même de l'écrire, le stylo à la main, mais le rêve oscille entre la peur permanente de voir Cyprien Gaillard disparaître et sa disparition effective. Peur de voir une œuvre à laquelle je crois tant s'arrêter d'un coup, brutalement. Peur d'une œuvre avortée, interrompue en pleine émergence et qui n'aurait pas su donner toute la mesure de sa puissance.
Merci beaucoup Jean-Max Collard. Vous allez rester avec nous un instant pour recevoir donc Florian et Mickaël Kistrebert. Bonsoir Florian et Mickaël.
Bonsoir.
Alors,
avant toute chose, nous allons vous offrir le deuxième pack de chansonnettes du Chevalier de Rinchy, dont on se dit ce qu'il est plus triste dans sa carrière, c'est que on aimerait après chaque concert pouvoir l'emmener chacun chez nous pour qu'il dispense sa musique amoureuse et tendre. Et je rappelle qu'il est l'auteur d'un disque qui s'appelle « Mes plus belles chansons d'amour », ce qui évoque peut-être une des plus belles déclarations d'amour dans une chanson de notre regretté Alain Bachung qui disait « Si tu me quittes, est-ce que je peux venir aussi ?»
Très bien. Ça va peut-être pas marcher d'un coup, mais si ça marche, chapeau. 3, 4...
femme et voulait toucher ses seins et son cul énorme. Merci.
Merci. Merci. C'était donc le chevalier de Rinchy et comment son acolyte Régis. Pardon.
Allô.
Allô, oui. C'était, oui. C'était le chevalier de Rinchy.
Et... Ah, nous on allait enchaîner là. On avait d'autres morceaux.
Ah pardon,
morceaux,
c'était
tout
pas
ça.
Fou.
Oui, ça va. Oui,
excusez-moi. Oui. C'est plus long que d'habitude.
Ah,
pardon.
Oui. Non mais ça va bien se passer.
C'est un gros pack cette fois-ci.
On y va. Il y en a trois. Hein, c'est très. Ok. On y va ? Régis. 3, 4. Je t'aime. Merci. Ok. Bérénice.
Ouh là 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 là.
T'es prêt ?
Trop pas.
Il est pas prêt ?
Ouais, ça va aller.
Si. C'est bon ? Allez, y a pas de chant. Hein. C'est bon ? 3, 4. Hop, hop, excusez-moi. Ah, plus péchu. Ok. 3, 4. Voilà. Voilà. Merci. C'est bon ?
C'est bien parlé devant le
3, 4. Veux-tu m'accompagner, Tina, au cinéma ?
Bravo.
Je te vois. Okay. 3, 4. C'est bon ? 3, 4. Je te vois, mais pas toi, mais pas toi.
Voilà.
Ok. Et c'est l'histoire de ma vie.
C'est juste, c'est bien.
C'est bon ? 3, 4. C'est l'histoire de ma vie. On revient tout à l'heure, merci.
Bravo.
Bravo. Alors, c'était donc le chevalier de Rinchy et Régis Victor, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous sommes avec Florian Kistrebert et Michael Kistrebert. Et tous les deux, vous nous avez proposé une chanson qui, en l'occurrence, est une chanson un peu particulière, qui dure 8 minutes, dont on va écouter le début tout de suite, et puis la fin, à la fin de notre discussion, ensuite. Donc. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre de cette chanson ?
C'est un titre qui s'appelle Lucifer Over London, et c'est interprété par Current 93.
Merci.
And clouds unfold the great gate, and fell amidst darkened shadows, over pointed spires. Little children point and sing, little children run and dance. Over there the setting sun, over there the setting sun, there's Lucifer over London, Lucifer over London. And under that, the silent stars, under they, the weeping sky, under her, the laughing world, balance sits in the western part, and piles spare spares in his gabled room. It's Lucifer over London, it's Lucifer over London. Great anarch and monarch of not the flight of Lucifer over London. My little grandson, wrinkled sun forehead, all tiny blue pain, the mother blood emerges. Then the mother grief and the human gates of death open arm wide. open, teeth wide. Lucifer over London. Lucifer over London. All dead like the leaves. Old times shiver. Old dead calendar. Past blurred sunsets. Cinders flying in his heart. His heart, his fingers punch holes in the sky. All the little Christs I count. Lucifer over London. Lucifer over London. Lucifer over London. Lucifer. Angels have the face of God. Some of them, the face of dogs. Lucifer over London. Lucifer over London. By the Tower of Power. See the skies, green angels fall. Lucifer. Look into him just a little longer. See the true face of the moon. So he wheels there the heavens. His eyes as dotted bright lights lit with dust.
Capitole, en 4 septembre, vous vous situez plutôt dans les bas-fonds du lieu, dans les caves, on peut dire ça comme ça. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler peut-être de la situation de ce travail, peut-être à la fois dans votre pratique et puis dans le choix là, de ce projet en particulier, dans le choix du moment, à quel moment il intervient dans l'évolution de votre travail?
Ok. C'est une expo qui a été conçue pour l'occasion. On pouvait pas. Enfin, on a fait tout sur place à part une pièce, une sculpture qui était déjà existante. Et donc, on a fait 8 peintures, on a fait une vidéo et quelques petits dessins. On est arrivé il y a 10 jours, on a tout fait.
D'accord. D'où l'odeur peut-être alors.
Pardon. Exactement.
D'où l'odeur qui persiste quand on visite le lieu. C'est une odeur, on peut dire, d'où elle provient.
C'est de la peinture à l'huile. Donc la peinture à l'huile met des semaines, voire des mois à oxyder, puisqu'elle ne sèche pas, elle oxyde. Et donc, vu la configuration du lieu, des caves... le peu d'aération, je pense que cette odeur va persister pendant toute la durée de l'exposition.
D'accord. Il semblait qu'il y avait du goudron.
Il y a du goudron également.
Également, voilà. C'est ça qui est assez particulier.
En fait, on recouvre des toiles en noir. On essaie de faire quelque chose entre Monet, quand il était peut-être aveugle, et...
Monet ?
Ouais.
J'avais pas pensé à Monet.
Bah, il peignait des cathédrales.
Des cathédrales, oui.
Aveugle.
Des cathédrales, d'accord.
Quand il était presque aveugle. Et... donc, enfin, on a plus ou moins senti, on n'est pas très non plus connaisseur mais, dans le domaine, mais on a plus ou moins senti qu'à Toulouse, il y avait quelque chose d'assez occulte qui s'était passé. Et l'idée des caves et de la société secrète et, nous a un peu
guidés
vers ce qu'on montre.
Mais vous pourriez nous préciser le lien, par exemple, entre ce choix d'un morceau de Current 93 et l'aspect messe noire de votre exposition, le rapport au symbole ou...
C'est une question d'affinité, en fait. Current 93, c'est un morceau qui peut rendre fou. Et,
donc, plus en fait, on l'écoute.
Current 93, c'est un groupe, enfin, pour ceux qui connaissent, c'est un groupe de Londres... de folk apocalyptique, et ils font que des chansons, ou beaucoup de chansons sur Lucifer, Satan, le satanisme.
Ouais.
Je pense que le lien est en fait assez évident. Lucifer, London, ça met déjà les. Ça annonce la couleur et...
Puis c'est des thèmes un peu bateaux qu'on aime bien manipuler, donc facile à comprendre. Donc c'est un point de départ pour dériver vers quelque chose.
Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un artiste peigne des tableaux pour rendre fou aussi, dont l'ambition idéale serait de rendre fou les regardeurs?
Rendre fou, ouais, se rendre fou soi-même.
Jean-Marc, un mot sur ces artistes que vous...
Déjà un mot qui était effectivement par rapport au lieu et puis par rapport à l'an dernier dans cette idée de faire un festival sur deux éditions qui soit un peu en stéréo. Donc il y a des lieux comme ça qui gardent la mémoire de ce qui s'est passé l'an dernier, et enfin des propositions qui gardent quand même la mémoire de ce qui s'est passé l'an dernier avec un effet comme ça de palimpseste où d'une année sur l'autre les choses se surimposent et parfois se superposent et se surimpriment l'une sur l'autre. Je pense par exemple à l'exposition Didier Rittner qui n'est pas sans évoquer, pour ceux qui l'auraient vu, l'exposition d'Alain Huc l'an dernier. Là, il y a un effet très fort de stéréo et presque un air de déjà-vu. Avec l'invitation qui était faite à Florian et Michael Kistrebert, il y avait vraiment l'idée pour le coup de rompre avec cette impression de déjà-vu, et le fait qu'ils y aient répondu par une situation justement un peu secrète, un peu cachée, était assez bienvenu. Ils ont, sans avoir vu l'édition de l'an dernier, ils ont compris qu'en leur racontant ce qu'il y avait, c'est-à-dire il y avait dans chaque alcôve quatre vidéos d'artistes différents, et là au contraire on a voulu donner tout le lieu à un duo d'artistes pour les laisser pleinement investir ces bas-fonds, on va dire. Mais je rappelle aussi que l'espace Écureuil, c'est aussi l'espace presque un des lieux les plus populaires du festival et du printemps. C'est aussi le point de départ pour la billetterie. Donc c'est considéré comme ça, comme un lieu qui est peut-être parmi l'un des plus familiers du festival. Et du coup, cette situation un peu retournée, où le lieu le plus familier, le rendez-vous incontournable, etc., la Fondation Écureuil devienne comme ça un lieu d'une confrérie occulte, d'un lieu plus secret, d'un lieu plus crypté. C'était évidemment un renversement qui nous intéressait et qui rompait complètement avec les propositions qu'on peut voir, je pense aussi, souvent dans l'année à l'espace Écureuil.
Très bien. On vous remercie tous les trois et on va peut-être revenir à la fin de ce morceau qui rend fou. On va le tester sur notre public et nous-mêmes. Six, 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 six
C'était la fin de ce morceau.
C'est un morceau en fait qui a donc c'est Current 93, ça vient d'une tradition anglaise de folk apocalyptique, on va dire.
C'est assez surprenant l'association de ces deux mots, folk apocalyptique.
Bah ouais,
j'ai découvert ça ce soir, je connaissais pas. C'est un genre à part entière ou...
C'est un genre qui a débuté à, c'est un peu la suite logique de du folk psyché qu'il y avait à Canterbury avec Incredible String Band, Spiro Girard. Et ça, c'est venu en même temps que la Batcave, les gothiques et tout ça.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Donc là, nous allons bientôt recevoir Chouro Kriège qui pratique donc le dessin. Est-ce que peut-être, Jean-Max Collard, vous voulez ajouter un mot de la fin sur cette exposition ?
Non, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. J'avais choisi un autre titre quand je pensais à eux. Je pense,
ah oui,
j'avais choisi,
ah oui, dans votre playlist,
un groupe qui s'appelle Turzi,
ouais,
qui est un groupe psyché-rock vraiment d'aujourd'hui. Et donc, il continue une veine du psyché, etc. Mais alors, pas du tout vraiment flower power, parce que l'heure n'est plus au flower power. Et, voilà. Et donc, vraiment sur le côté plutôt vraiment dark, vraiment noir. Et le titre s'appelait Attila Blues. Et voilà, c'était une autre forme de collage. On a le folk apocalyptique, le blues d'Attila, Monet aveugle perdant des cathédrales noires. Bref, l'ambiance est un peu comme ça, quoi.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci.
Au plaisir.
Alors, nous allons recevoir Chouro Kriège, qui est ce soir spécialement. Donc, c'est une artiste qui expose actuellement à Colomiers, aux côtés d'Abdelkader Benchama. Et donc, Chouro Kriège fait une proposition un peu particulière entre écriture et musique. Elle est accompagnée par Olivier Tout-le-Monde, c'est son vrai nom, et il a en face de lui un assez beau dispositif, je lis pour les auditeurs, avec une table de verre et différents objets mystérieux, un archet sans violon, je crois. Voilà, c'est à vous.